Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va. Aujourd'hui, on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de procrastination. Comment arrêter de remettre toujours les choses au lendemain. Comment se mettre à l'action, comment passer à l'action plutôt, et se mettre en marche pour lancer ses projets, atteindre ses objectifs et petit à petit mettre en place des choses qui vont vous mener là où vous souhaitez aller. C'est vraiment difficile la procrastination parce que on a une espèce de cercle vicieux dans lequel on peut facilement tomber et qui nous entraîne vers une dévalorisation de soi-même, une mésestime de ce qu'on est capable d'entreprendre, et moins on fait, moins on a envie de faire et plus on se dévalorise, et ça peut être parfois compliqué de se mettre le pied à l'étrier et de prendre le pli de faire les choses petit à petit, de découper vos étapes en objectifs, etc. Donc c'était l'idée dans ce podcast de parler un petit peu de tout ça, et j'ai découpé en plusieurs sections pour vous donner tous mes outils pour passer à l'action et pour mener à bien tous les projets et tous vos rêves, parce que derrière un rêve, il y a un projet qui peut se découper en objectifs et en petites étapes, et on en parle suffisamment dans ce podcast pour que ce soit réalité et pas simplement juste de l'inspiration. L'idée, c'est de pouvoir s'inspirer pour ensuite appliquer tout ça dans sa vie bien réelle et bien concrète. Donc la première chose, évidemment, et ça on le répétera jamais assez, se fixer des objectifs clairs et précis. C'est extrêmement important quand on a tendance à procrastiner parce que ça nous permet de définir le résultat qui est attendu. C'est aussi se dire comment ma vie va être changée, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau à mon quotidien, à mon existence en atteignant cet objectif. C'est quoi le résultat qui est attendu, qu'est-ce qui me fait rêver dans cet objectif, dans tout ça, sans que ce soit des objectifs forcément incroyables, mais c'est vrai que derrière des projets, derrière ce qu'on a envie d'accomplir, souvent il y a un rêve, il y a une envie, il y a un projet qui résonne avec nos valeurs, avec qui on est, et de pouvoir le projeter, se fixer vraiment des objectifs très clairs en étant spécifique et détaillé sur chacune des étapes qu'on a à franchir pour atteindre cet objectif, et ça peut vraiment permettre de se mettre en marche et de se fixer des tâches et de les accomplir. Il y a vraiment cette idée d'objectifs qui soient smart, donc on en parle pas mal dans le coaching notamment, où on a tout un module dédié pour identifier ce que c'est un objectif smart, mais l'idée c'est que ce soit suffisamment spécifique, qu'on puisse le mesurer et qu'il y ait une temporalité, donc que ce soit à la fois atteignable, réaliste évidemment, mais temporel. Il y a vraiment ce côté de se fixer des délais pour que chaque tâche puisse être réalisée dans un temps imparti et que vous ayez cette visibilité, cette vision sur le long terme. C'est une des étapes clés pour justement arrêter de remettre au lendemain ce que vous avez envie de faire et se trouver des excuses, etc. Donc les objectifs, ça aide à avoir un plan et à avoir une vision, et du coup beaucoup plus de clarté dans votre projet global. Ça va avec le second point qui est aussi hyper important, c'est établir un plan d'action et s'y tenir. À partir de ces objectifs, vous pouvez annoter une date, les placer sur une sorte de frise, une timeline, quoi, une frise du temps, et en entonnoir, petit à petit, mettre et placer ces objectifs par ordre de priorité pour atteindre l'objectif global. Ça aide justement le cerveau à y voir plus clair. Arrêtez de se dire que la montagne est trop grande et qu'il vaut mieux ne pas commencer à la grimper et à emprunter le petit chemin parce que rien que de la voir de loin, elle paraît immense. Au contraire, plus vous allez déterminer votre chemin étape étape par étape, plus ce sera facile de se mettre à travailler sur ces petits objectifs. Donc on prend vraiment cette vision en entonnoir, on part des étapes les plus larges pour arriver aux actions les plus précises et surtout les prioriser. C'est hyper important. Cette priorisation, ça va vous permettre de traiter en premier ce qui est le plus important et ce qui fait le plus sens dans l'avancée de votre projet. Là, on a l'impression qu'on parle forcément de projets énormes, mais la procrastination, ça s'applique aussi aux petites tâches du quotidien. Si votre projet, c'est de ranger votre maison et que sur la globalité de l'objectif, vous vous dites que vous avez envie pour ce soir d'avoir une cuisine propre, c'est tout à fait quelque chose que vous pouvez mettre en place de façon très concrète comme un projet beaucoup plus gros et d'envergure si c'est lancer votre activité, entamer un voyage, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que la procrastination, c'est un mécanisme et que ce mécanisme, il se répète autant dans les petites tâches du quotidien que pour les gros projets. Et plus vous allez vous entraîner à appliquer justement une méthodologie qui vous convient et qui vous permet de passer à l'action, peu importe la hauteur, la grandeur de la tâche, plus vous allez vous entraîner à réussir à les atteindre. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer par des petites choses au quotidien. Autant ça peut être ranger votre maison, ça peut être un projet chez vous que vous aviez imaginé dans le jardin, planter un arbre, je sais pas, je sais que vous aurez plus d'imagination que moi, et d'établir un plan d'action, même si les actions sont toutes petites, pour y arriver. Et finalement, cette méthodologie, plus elle va être pratiquée sur des petites choses du quotidien, plus vous serez en capacité de la mettre en place aussi pour de grands projets. Et justement, quand on parle de priorité, on va pouvoir identifier les moments de la journée qui sont les plus propices aux tâches lourdes. C'est-à-dire que en fonction de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, certaines personnes, par exemple, ont beaucoup plus de facilité à aborder les tâches importantes le matin. Ils se sentent beaucoup plus énergisés, énergiques, voilà, je ne sais pas comment dire ce mot, mais en tout cas, ils sentent que le matin, c'est une fenêtre d'attention et de concentration qui est beaucoup plus propice aux tâches plus lourdes, qui demandent plus de concentration, qui demandent peut-être un peu plus de réflexion, etc. D'autres personnes ont un pic de créativité, par exemple, dans la nuit, en soirée. Alors, dans la nuit, on s'entend, hein, l'idée, c'est pas non plus de bouleverser complètement son rythme, mais en fin de journée, il y a des personnes qui ont justement envie de se consacrer à des tâches peut-être, plus créatives, etc. Ou inversement, l'idée, c'est surtout d'apprendre à se connaître. Je sais que moi, j'ai une période de ma vie où je travaillais beaucoup mieux le matin très tôt sur des tâches un peu lourdes. Aujourd'hui, plus du tout. J'ai plutôt tendance à m'en occuper dans la matinée. Voilà, ça varie, ça fluctue, mais ça peut être intéressant quand vous avez des tâches à prioriser, d'identifier les moments de la journée où vous êtes le plus enclin à les mettre en place et à les effectuer. Vous pouvez les prioriser, leur donner un code couleur et en fonction du moment de la journée, voir identifier ce que vous auriez le plus envie d'aborder. Face à votre liste de tâches, vous vous dites, ok, là, qu'est-ce que je me sens de faire le plus ? Et d'organiser, du coup, vos journées, un petit peu comme ça, par fenêtre de temps et par fenêtre d'attention en fonction de votre capacité d'attention. Moi, je sais que ça m'arrive le soir et ça m'arrive aussi le matin tôt et que j'ai des périodes, par exemple, juste après manger où j'ai pas du tout de concentration, où je vais plutôt faire des tâches un peu robotiques, répétitives, où j'ai pas forcément besoin d'intellectualiser tout ce que je suis en train de faire ou d'analyser. Voilà, mais encore une fois, c'est vraiment personnel, mais c'est intéressant d'apprendre à se connaître de ce point de vue-là, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir être le plus efficace possible et accomplir les tâches sans être dans une difficulté qui vous amène à recommencer, à répéter, etc. Parce que justement, vous auriez été inattentif à un moment où vous vous consacrez à une tâche qui mérite toute votre attention. Donc on peut se créer des plages dédiées justement à la réflexion, au brainstorming, à des choses qui peuvent demander beaucoup plus d'analyse ou de planification ou justement de recherche, etc. Dans votre semaine, vous pouvez vous les planifier, vous les noter si c'est nécessaire pour vous, de se créer du temps en fait, de se créer du temps pour y penser, de créer du temps aussi pour vos projets, parce qu'on a toujours ce truc de se dire « Ah, j'ai pas le temps, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de me former là-dessus, mais j'ai pas le temps, je trouve pas le temps, etc. » Et en fait, se planifier du temps, ça permet de se dire « Voilà, quoi qu'il arrive, j'ai un petit moment pour moi. » On peut commencer petit, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure dans la semaine, où je vais me consacrer à ce projet. Ça se trouve, pendant 30 minutes, vous allez juste faire de la recherche, vous allez juste regarder le titre d'un livre qui pourrait vous inspirer, ou une méthode, ou un tuto que vous aurez trouvé sur internet, et c'est ok en fait. L'important, c'est petit à petit de se créer des moments où ça devient possible. Et en divisant donc vos tâches, vos étapes, en petites étapes le plus en plus gérable, et ben même le truc le plus petit va pouvoir être du coup intégré dans ces plages de temps, et vous aurez l'impression quand même d'avancer, même si c'est petit pas par petit pas, cette récompense instantanée qui va vous permettre petit à petit de nourrir votre motivation à aller plus loin dans ce projet. Donc ces plages là que vous planifiez en fonction de vos fenêtres d'attention, elles vous permettent, avec vos objectifs et vos étapes bien précises, bien listées, bien priorisées, de petit à petit mettre en place des moments dans votre semaine où vous vous consacrez à vos projets, et justement vous arrêtez de repousser en vous disant bah je repousse, je le fais pas maintenant, mais quand je m'y mettrai je ferai tout à fond, hein. vraiment je sais que je m'en occuperai plus tard et que je ferai ça tout d'un coup. Et concrètement, c'est très rare que ça marche comme ça. On a besoin d'y aller aussi petit à petit et de trouver de la motivation dans les petits pas qu'on fait vers notre grand projet. Peut-être que cette méthode pourrait être quelque chose qui permettrait justement de moins lâcher cette motivation sur le long terme. On a souvent tendance à être très emballé par un projet et puis ça s'essouffle facilement, justement parce qu'on met pas forcément en place des petites méthodes et de la discipline. Et je vous invite à écouter l'épisode justement sur la motivation et la discipline, parce que c'est vraiment ça la différence, c'est-à-dire ne pas être dans un truc de contrainte, mais au contraire d'utiliser la discipline pour répéter régulièrement des petites actions qui font changer les choses et qui vous incitent à aller là où vous avez envie d'aller, tout simplement. Ça paraissait indispensable, et si vous suivez mes vlogs, vous le savez, parce que j'en parle pas mal en ce moment, mais éviter les distractions. Et alors là, pour le coup, c'est un gros challenge en ce moment pour moi, d'éviter les distractions, notamment sur les réseaux sociaux ou la télévision, si vous êtes du genre à écouter la télévision. Moi, j'avoue que c'est plutôt les réseaux sociaux, des formations professionnelles, il faut croire. Il y a des applications qui bloquent les réseaux sociaux. Honnêtement, franchement, moi, je vous le dis, c'est ce qui me permet de notamment mieux dormir et d'avoir une meilleure hygiène de sommeil. Donc, j'utilise une appli qui s'appelle Jomo, qui est vraiment très bien faite. Vous pouvez vous mettre des plages horaires, vous pouvez vraiment déterminer quand est-ce que vous avez envie d'avoir quelle application. Donc, vous avez quand même accès à votre téléphone, mais certaines applications sont bloquées. Si vous sentez que c'est des applications, vous avez tendance à perdre beaucoup de temps à scroller indéfiniment parce que c'est contre-productif à mort, hein, il faut se le dire. Déjà parce qu'on n'est pas dans des... Enfin, on n'est pas dans quelque chose de productif. Non pas qu'on doit être tout le temps dans la productivité, hein, mais il y a une différence entre se poser, faire une vraie pause parce qu'on a envie juste de scroller et d'être diverti, etc. Et prendre son téléphone par réflexe en regardant machinalement, je pense qu'on l'a tous fait, TikTok ou Instagram, et en défilant, on ne sait pas pourquoi on défile, mais on défile les vidéos, les photos, etc. Et au final, ça nous déconcentre complètement de notre objectif final, et ça nous fait perdre un temps fou. On a en plus tendance à consommer du contenu qui peut parfois nous amener des émotions désagréables, de la comparaison, etc. Et du coup, on rentre dans un cercle un peu vicieux où non seulement on est démotivé, mais en plus de ça, on n'est pas forcément inspiré par des choses hyper, hyper sympas. Voilà, le téléphone, je pense qu'on a tout intérêt, dans le cadre de la procrastination, à le laisser à l'écart. Ça peut être une autre solution aussi. Si physiquement il est à l'écart de vous, peut-être que vous aurez moins de tentations. Moi, j'ai du mal à ce qu'il soit à l'écart de moi parce que j'ai tendance à le chercher. Mais au moins, je sais que quand les applications sont bloquées, même quand j'ai le réflexe de le faire, et ça arrive, hein, et c'est assez terrible parce qu'on se dit, mais on est vraiment dans un truc un peu robotique, et je suis bloqué et du coup, je me remets. Ça m'oblige à me focus pendant un temps défini. Ce qui m'aide aussi, c'est. Alors, moi, j'ai un iPhone, je ne sais pas si c'est valable sur tous les téléphones, mais vous avez des profils qui vous permettent de filtrer les notifications pour ne pas être dérangé. Et moi, j'ai des profils de concentration ou des profils créativité que j'ai créés, en fait, j'ai paramétré dans mon téléphone, et qui permettent de sélectionner les personnes que vous voulez autoriser à vous contacter, les applications qui sont autorisées à vous envoyer des notifications, etc. Et ça permet, je trouve, de vraiment créer des espaces de travail beaucoup plus propices, parce qu'on est vraiment très vite happé par tout ça. Donc c'est un peu le mal de notre génération. Hein. En même temps, moi, je crache pas sur les réseaux sociaux, parce que vraiment, je trouve qu'il y a des superbes choses.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mais dans le cadre de la procrastination, on a vite fait de se laisser un peu happer par tout ça. Donc je pense que ça fait partie des choses qui sont utiles à mettre en place au quotidien pour éviter de perdre ce temps-là et de se mettre dans une spirale un peu stressante et en même temps démoralisante de « oh là là, je me rends compte que je passe tant d'heures sur mon téléphone par jour et ces heures-là, j'aurais pu les consacrer à autre chose ». Je voulais vous parler aussi d'outils de gestion du temps. Je me suis un peu renseignée parce que c'est vrai que je les utilise pas tous et j'ai noté un petit peu ceux qui revenaient le plus, et ça pourrait être intéressant de vous les présenter ici parce que, encore une fois, j'aime bien vous parler d'outils. Ce podcast, je le vois comme une grande boîte à outils géante et vous prenez ce que vous avez envie de prendre, vous testez, si ça vous convient, tant mieux, si ça vous convient pas, c'est pas grave. Tous ces sujets de santé mentale, de développement personnel, c'est surtout de se dire qu'il n'y a pas de bonne méthode, pas de bonne solution. Alors bien sûr, il y a des solutions qui sont prouvées scientifiquement et qui sont recommandées, voilà, et on défend ici et sur TakeCare le non-bullshit, hein, clairement, mais dans le cadre d'outils pour le bien-être en général, je trouve que c'est intéressant d'avoir connaissance de plusieurs choses et d'essayer et de voir si ça nous convient et d'être voilà, critique par rapport à tout ça. Donc j'avais envie de vous parler d'outils de gestion du temps. Et n'hésitez pas à me dire sur le réseau, sur TakeCare, par message ou quoi, si vous en avez testé et lequel vous convient, parce que ça m'intéresse toujours de connaître un peu les fonctionnements de chacun. Alors il y a une méthode qui est assez connue qui s'appelle la méthode Pomodoro, qui est une technique de gestion de temps qui consiste en fait à travailler par bloc de 25 minutes, mais je sais qu'il y a d'autres façons de faire. Vous pouvez choisir de faire un temps différent, mais il me semble que de base c'est 25 minutes et c'est suivi en fait de courtes pauses de 5 minutes. Donc vous travaillez par bloc de 25 minutes et ensuite vous avez 5 minutes de pause et vous reprenez 25 minutes, etc. Et ça permet d'optimiser sa concentration et du coup la productivité qui est associée, puisque vous allez vraiment faire du time managing, vraiment le fait de planifier son temps et de se dire pendant les 5 minutes je vais faire une vraie pause ou plus, hein. Là j'ai vu 5 minutes mais vous pouvez faire plus. Je sais que c'est pas mal utilisé par des étudiants quand ils révisent notamment, d'avoir vraiment ces 5 minutes de pause où on sort, où on n'est plus du tout dans ses cours, on va boire un coup, on discute, voilà, et ensuite on se remet sur un bloc et ça nous donne en fait une visibilité, c'est-à-dire qu'on se dit vraiment là pendant 25 minutes je suis à fond, et c'est parfois quelque chose qui peut motiver d'avoir cette deadline en fait. Donc je sais que c'est pas mal utilisé. Il y a aussi la technique Eisenhower, ça consiste en fait à classer les tâches en fonction de leur urgence. Alors en fait je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, moi je le fais naturellement, le fait de prioriser, mais en tout cas cette méthode elle est vraiment dans l'idée que ce qui est urgent on traite en premier, vraiment ça doit être fait en premier quoi qu'il arrive, et les tâches ensuite moins importantes peuvent être traitées en dernier et traitées dans les moments de la journée où vous êtes un peu moins concentré. Donc généralement le matin on fait vraiment les tâches urgentes et ensuite petit à petit on fonctionne en entonnoir par ordre décroissant d'importance. Ça je pense que ça peut être pertinent quand on a peut-être une liste de choses à faire sur la journée, une to-do list un peu bien remplie, etc. Mais sur un gros projet parfois c'est difficile parce que il faut d'abord déjà avoir connaissance de toutes les tâches et de pouvoir les identifier comme étant urgentes ou non, et quand on a la tête dans un projet souvent il y a des urgences qui arrivent qui ne sont pas prévues, donc on ne peut pas tout prévoir. Et c'est bien la particularité justement de se lancer dans un projet. On peut aussi parfois avoir à finalement prendre une urgence qui n'était pas prévue et qui arrive en plein milieu de la journée. Donc voilà, encore une fois, c'est adapté en fonction de chacun. Il y a une règle qui s'appelle la règle des 2 minutes. Et elle consiste à traiter immédiatement les tâches qui peuvent être réalisées en moins de 2 minutes. Donc c'est pas forcément les tâches urgentes, là c'est vraiment en termes de temps. C'est-à-dire on regarde notre liste de choses à faire et on se dit cette tâche elle va me prendre tant de temps, cette tâche j'ai besoin d'une autre personne pour l'accomplir, cette tâche j'ai besoin de tel objet ou de tel logiciel ou peu importe. Et en fonction, toutes les tâches qui peuvent être réglées de façon autonome en 2 minutes ou moins, on les place en priorité et on les traite. Et en fait, ça permet de ne pas accumuler des petites tâches, pas faire du multitasking où on est un peu par mons et par vos et on fait plein de choses en même temps. Ça, on sait que c'est pas productif. Mais au contraire, de tester de batch cooking, j'allais dire. Non, le batch cooking, c'est pas ça. De faire du batching de petites tâches pour vraiment, vraiment, vraiment les épurer et ne pas avoir en fin de journée cette petite liste de choses à faire. Ça c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps sur les journées un peu chargées. Je pense que ça peut s'appliquer dans certains cas. Il y a ensuite la technique de planification inverse. Et en fait, c'est le fait de fixer une date limite pour la réalisation d'une tâche, puis vous détaillez cette tâche-là. Donc on en a un peu parlé au début, mais ça s'applique aussi sur une liste plus globale de to-do list où vous allez vraiment vous dire, ok, dans ma liste, à combien j'estime le temps. Donc ça peut rejoindre la règle des 2 minutes et vous les placez en fonction des moments de la journée où c'est propice pour vous. Mais vous allez vraiment vous dire, est-ce que cette to-do list est réalisable, puisque je sais que telle tâche me prend 1 heure, telle tâche me prend 1h30, telle tâche me prend 10 minutes, etc. Et vous allez planifier comme ça vos tâches, même ça peut être sur la semaine, en fonction du temps qu'elles occupent, et ne pas du coup se surcharger en ajoutant des tâches de façon indéterminée et qui finalement vont vous prendre beaucoup plus de temps que prévu et que nécessaire, et du coup cette frustration d'arriver en fin de journée avec bah, beaucoup de tâches qui n'auront pas été accomplies ou que vous n'aurez pas eu le temps de faire, quoi. Vraiment, l'idée, ce n'est pas de se décourager, c'est ok, parfois, on arrive à la fin de la journée, on n'a rien fait de ce qu'on avait prévu de faire et on remet au lendemain. L'idée, c'est pas de se dire, oh là là, mon Dieu, je suis moins bien qu'un tel parce que j'ai pas réussi à faire ça dans tel temps. Alors, on a tous nos moments. En tant que personne menstruée, le cycle hormonal joue énormément sur notre capacité aussi de concentration, etc. Donc, faut être indulgente avec soi-même. Mais cette technique peut-être être assez rassurante pour les personnes qui ont besoin d'avoir une vision peut-être un peu plus globale, de se dire, voilà, je connais mes tâches, je connais le temps qu'elles vont me demander. En tout cas, j'estime le temps et je vais pouvoir les planifier sur plusieurs jours en fonction des plages dont je dispose. Et enfin, y a une technique alors qui s'appelle le batching. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'était pas pour la même chose. Ça consiste en fait à regrouper les tâches similaires pour les traiter ensemble. Donc, faites des blocs de tâches. Ça permet de gagner du temps en fait en évitant de passer d'une tâche à une autre de façon un peu décousue. Vous allez vraiment les ranger par catégorie de tâches. Et encore une fois, vous pouvez vous dire, les tâches créatives, les tâches qui vont me demander de l'analyse, les tâches qui vont me demander d'être en groupe, etc., etc. Et de les placer dans votre journée en fonction des moments où vous avez la possibilité de mieux les traiter parce que petit à petit, vous apprenez à connaître comment vous fonctionnez. Voilà, l'idée, ça peut être sur ce batching, comme le batch cooking, de préparer à l'avance un petit peu, de pré-mâcher en vous disant de quoi j'ai besoin en fait pour pouvoir accomplir ces tâches et de les regrouper par type pour moins vous éparpiller. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure et je vais pas m'attarder dessus parce que vraiment on a fait un épisode global que je vous conseille sur le sujet, sur la discipline personnelle et l'autodiscipline cette motivation, enfin cette nuance entre la motivation et la discipline, comment on peut entretenir justement cette motivation au quotidien. Vraiment, je suis convaincue que la motivation s'entretient aussi par les petites victoires personnelles, s'auto-congratuler, féliciter, etc. quand on atteint des petits objectifs, parce que cette motivation, elle s'entretient aussi en se félicitant, mais aussi en se rappelant pourquoi est-ce qu'on a déterminé notre objectif au départ, pourquoi est-ce que le projet a été lancé. Ça permet aussi de voir le chemin parcouru, parce qu'on a toujours tendance à voir ce qui nous attend, mais pas forcément à se retourner, à se dire « waouh, on a quand même bien avancé ». Donc je vous laisserai aller écouter l'épisode justement sur ce sujet, mais voilà, essayez de se tenir à des petites tâches de façon récurrente et de s'autodiscipliner, de se motiver grâce à des récompenses personnelles et à une vision globale plutôt qu'une vision sur le futur et ce qu'il nous reste à faire et le verre à moitié vide. Enfin bref, voilà, je veux pas trop en dire parce que vraiment on l'a bien détaillé dans cet épisode, mais c'était important pour moi de le noter. Dans le cas de la procrastination, la motivation et la discipline sont des éléments qui sont essentiels. Et encore une fois, quand on sait pas où on va et pourquoi on va là où on va, c'est beaucoup plus difficile de tenir sur le long terme. Notre cerveau a besoin de comprendre et au-delà de la compréhension, a besoin de substances qui lui rappellent à quel point ce qu'il fait l'amène vers quelque chose de plaisant et qu'il désire, etc. Donc même quand on a des tâches à faire, parce que là on parle de projet, mais même quand on a à ranger sa maison, c'est pas forcément un truc qui nous amène de la motivation et de l'autosatisfaction. C'est le sentiment de l'après sur lequel on peut se concentrer par exemple pour se motiver, en se disant j'ai envie de ranger ma maison parce que c'est plaisant, parce que ça te donne un environnement dans lequel je me sens bien, parce que c'est un univers agréable, parce que j'ai la sensation d'avoir accompli quelque chose, etc., etc. Donc cette motivation, elle est hyper importante à entretenir justement dans le cadre de la procrastination pour se projeter vers l'émotion positive que peut nous amener le résultat de ce projet ou de cette tâche accomplie. J'ai aussi entendu parler de quelque chose d'assez intéressant concernant la procrastination, c'est le partenaire de responsabilisation. Je sais que ça se fait beaucoup pour les étudiants et il me semble que Samuel, quand il était en fac de médecine, c'était le cas pour lui, c'était vraiment de former un binôme, un trio ou plus, mais je crois que il faut pas non plus que ce soit un énorme groupe parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un lien assez proche pour se motiver, se responsabiliser, avoir vraiment ce feedback et ce support émotionnel en fait pour à la fois partager les connaissances bien sûr dans le cadre d'une pratique ou d'un projet plus global, d'avoir vraiment cette vision à deux en fait et d'avoir quelqu'un qui nous encourage à persévérer et qui vit un petit peu la même chose que nous. Il peut vous donner un retour sur les progrès, il peut vous accompagner pour atteindre justement ses objectifs plus facilement parce que vous êtes à deux. Il y a vraiment ce côté support en fait, hein. Il y a le soutien émotionnel, il y a vraiment cette idée de surmonter ensemble les difficultés et je trouvais ça hyper intéressant en fait. Je pense que ça s'applique pas à tous les projets ou à toutes les tâches qu'on a à accomplir. Le partenaire de responsabilisation, si vous avez à ranger votre maison, bon, ça peut être votre partenaire hein, au quotidien, mais quand on vit solo ou qu'on n'a pas forcément quelqu'un avec qui on a envie de partager ce genre de petites tâches, ça peut être un peu plus compliqué, mais je pense que dans le cadre de gros projets, ou sans qu'ils soient forcément gros en fait, dans le cadre de projets, ça peut être intéressant, et j'aimais bien l'idée en fait de trouver quelqu'un avec qui parcourir ce chemin. Voilà, on le voit aussi dans les pratiques sportives, notamment la course, etc. Il y a pas mal de clubs et même d'associations qui se forment et qui permettent d'aller plus loin ensemble, et je trouve ça hyper intéressant comme idée pour justement lutter contre cette procrastination et ne pas abandonner. Et enfin, on en a parlé, mais c'était important pour moi de revenir sur le fait de célébrer ses progrès, ses réussites, même les plus petites, les petites victoires, voilà, et de se former une sorte de palier de récompense. Vous pouvez vous faire des paliers de récompense, on va dire, croissants en fonction des tâches que vous allez accomplir, mais dans le cadre de petites tâches du quotidien, même sur le ménage de votre maison ou un projet que vous remettez au lendemain depuis longtemps dans votre jardin, de bricolage, peu importe, vous avez cette petite satisfaction personnelle qui peut être très gratifiante, et moi j'aime bien mettre des trucs comme ça quand je suis solo et que je sais que j'ai beaucoup de choses à faire par exemple à la maison. J'aime bien me dire tu as identifié telle tâche, c'est tes priorités, quand t'as fait ça, t'as envie de te regarder un petit épisode de série, et du coup je le fais, et je sais que ça me rythme et que j'ai une vision en tête, et que du coup cette vision elle me permet d'accomplir les choses en ayant une petite carotte, hein, il faut le dire, hein, c'est une petite carotte au bout du bâton, mais souvent ça marche, et quand c'est entre soi et soi-même, c'est assez sain de se célébrer et encore une fois d'avoir ce regard positif sur ce que vous avez déjà accompli. Aussi petite la victoire soit-elle, même si c'est vider de la vaisselle, je peux vous dire que quand vous n'avez pas envie de le faire et que vous vous dites allez je me lève, je le fais, et qu'à la fin vous êtes heureux et vous avez envie de vous dire je vais me regarder un épisode de série ou je vais manger un morceau de chocolat noir parce que ça me fait kiffer, ou peu importe, je vais danser sur une chanson qui me fait plaisir, c'est parfois des petites choses qui vont vous motiver et vous aider à tenir en fait cette autodiscipline justement pour aller accomplir ce que vous avez à accomplir. Voilà pour cet épisode sur le sujet de la procrastination, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des outils encore peut-être pour appliquer au quotidien des petites choses qui vous aideront à vous mettre en marche vers ce que vous avez envie d'accomplir. Moi en tout cas je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et à très vite.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.